Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'invasion de l'IA a commencé. Elle est partout dans vos librairies, dans vos commerces et partout ailleurs aussi. C'est parti pour le rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour ce 502e épisode. Je suis également très heureux de recevoir, on est en février 2023, j'ai failli dire 2023, et je suis également très heureux de recevoir Benoît Curdi qui nous revient après quelques trop longs mois d'absence. Bonjour Benoît, comment vas-tu ?
Salut Patrick, hyper bien, très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui et je me réjouis, on est dans la renaissance de la tech, l'invasion comme tu dis, et je suis chaud bouillant quoi.
Très bien. On t'a dans l'émission trop rarement, mais du coup ça fait de chaque présence de chacune de tes contributions un plaisir d'autant plus rare et précieux. Donc merci à toi d'être ici. Je sais même pas si on mentionne ce que tu fais. Peut-être qu'on va le rappeler aux auditeurs. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi, dans la tech et peut-être même dans la vie?
Ouais, alors dans la vie, je travaille à l'Office fédéral de l'aviation civile où je m'occupe de la section, je suis chef de la section stratégie et innovation. Et donc, ça veut surtout dire les drones et comment est-ce qu'on intègre tout ça dans l'espace aérien avec aussi tout le côté software dessous pour que tout le monde puisse se parler et tout. C'est hyper cool. C'est un milieu bien conservateur hein, quand même, l'aviation, pour de bonnes raisons. C'est pour ça qu'on peut prendre l'avion, l'âme en paix. Et donc, voilà, il y a des challenges, c'est super intéressant à faire. Donc, un jour ou l'autre, effectivement, on pourra, quand il y aura des nouveautés drones, heureux d'en parler, quoi.
Mais tu sais que même au-delà de ça, je vais faire de toi aujourd'hui le représentant de toutes les administrations du monde, les administrations gouvernementales du monde, parce que j'ai des questions à te poser. Monsieur Curdi.
Oui, on fait partie de ce club. On se rencontre régulièrement tous et toutes. Hein, et donc, je pourrais répondre en leur nom. Aucun problème.
Très, très bien. On a également le grand plaisir de recevoir, je crois, pour la deuxième, troisième fois, Adrien Naïm. Comment vas-tu, Adrien ?
Très, très bien. C'est effectivement la troisième fois, il me semble. Bonjour à tous. Ravi d'être accompagné de toi et de Benoît, parce que je suis aussi auditeur de vos deux podcasts. Donc, ravi d'écouter Nip Tech chaque semaine ou quand vous publiez chaque deux semaines, je crois. Donc, voilà, coucou à tous.
On a même pas mentionné Nip Tech en présentant Benoît parce que c'est tellement évident qu'on ne l'a pas dit. Et du coup, on est vraiment entre podcasteurs puisque toi, tu es aussi le co-animateur du Café de l'e-commerce. Et c'est en partie en cette qualité, enfin en tout cas ton expertise dans ce domaine va être intéressante là aussi pour l'IA, parce qu'on va en parler un petit peu dans notre premier sujet. J'ai très hâte d'entendre tout ce que tu vas nous raconter également. Avant de se lancer, un petit mot pour remercier les Patriotes qui ont rejoint le Rendez-vous Tech, et je voudrais remercier spécifiquement Loïc avec un K, qui a peut-être rejoint le Patreon du rendez-vous jeu aussi, je me souviens de Loïc avec un K, Jean-Noël, Anthony, Alex Anders, qui écrit son A avec un caractère spécial, et Kevin Amado. Merci à vous tous, une bise spéciale à vous tous. Vous savez quoi ? Je vais vous faire une bise à chacun, l'un après l'autre. Loïc avec un K, Jean-Noël, Anthony, Alex Anders et Kevin Amado. Voilà, c'est des bises à tout le monde et double bise aux producteurs Franck Matignon et Rémi X. Et des bises en bonus pour tout le monde. C'est comme l'école des fans ici, tout le monde a des bisous, de loin parce que quand même, il faut faire attention. Mais tout le monde a des bisous, j'espère que vous êtes heureux de faire partie du club très fermé des Patriotes auquel on accède par un moyen secret que vous devrez découvrir par vous-même ou simplement de faire partie des auditeurs du Rendez-vous Tech. Je vous apprécie tous à votre juste valeur. Attention, il y a un piège. Et on va se lancer dans la première partie de notre émission, qui est la section des infos à retenir. Et on va parler, vous ne devinerez jamais, du sujet principal aujourd'hui. C'est une collection de plein de petits sujets. C'est l'IA. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Le début de l'invasion ? L'invasion a commencé ? Je crois que c'est ça. Ouais, l'invasion a commencé. Bon titre pour l'épisode d'ailleurs. Fanny, note ça dans un coin de ta tête. L'invasion a commencé. Et je sais que certains d'entre vous se disent peut-être « Ah, l'IA, on en entend parler tout le temps, partout, ça commence à devenir fatigant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets ? Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop ?» Et c'est des sujets notamment qu'on a évoqués sur le Discord aussi. Et c'est des sujets dont je suis... Enfin, une problématique dont je suis très, très conscient quand je prépare les émissions. Et c'est vrai que là, ça fait des mois et ça s'accélère où on parle de ça tout le temps. Je ne vais pas dire que de ça parce que ce n'est pas vrai non plus, mais on en parle tout le temps. Et du coup, je me pose la question, comme à chaque fois qu'on parle d'un sujet un petit peu trop souvent, trop entre guillemets, est-ce que c'est vraiment justifié ? Et en l'occurrence, contrairement à des sujets qui étaient un petit peu, je dirais pas poussifs, mais dont on parlait parce qu'ils faisaient l'actualité plus que par leur importance profonde dans la société, ça a pu être le cas, encore que ça se justifie toujours, hein, quand on a beaucoup parlé de Twitter, c'était important, bon, c'était aussi parce que c'était notre quotidien. L'année dernière, ou il y a deux ans, on parlait beaucoup de blockchain, de NFT. Alors, avec notre prudence, j'espère qu'elle a été clairement exprimée sur l'incertitude qu'on avait par rapport aux conséquences dans la vie réelle de ces technologies. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une catégorie différente et que pour ce qui est des IA génératives spécifiquement, parce que les IA sont partout depuis longtemps, mais les IA génératives sont celles qu'on voit émerger depuis l'été dernier, j'irais, avec les images d'abord, Midjourney, DALL-E, etc., et le texte maintenant avec ChatGPT, Bing, etc., eh bien celles-là ont des vraies conséquences importantes ou vont avoir des vraies conséquences importantes sur la société en général. Et donc, on est un petit peu, pour vous donner l'image que j'ai moi-même et que j'utilise pour me justifier ou non de la discussion de ces sujets, c'est un petit peu comme à l'époque où Internet commençait à devenir véritablement populaire. Et si on se disait à ce moment, ah ben Internet c'est bon, on en a soupé, on en entend tout parler tous les jours, au journal c'est Internet, dans les podcasts c'est Internet, sur Internet on entend parler d'Internet, oui bah c'est vrai. Et Internet a eu des conséquences importantes, je dirais que c'est peut-être pas à voir, à débattre si c'est aussi important que le phénomène Internet, le phénomène social technologique Internet, mais on est dans cet ordre d'idée. Donc, c'est vraiment important de parler de l'IA, de voir comment ça évolue. Alors évidemment, on est un podcast tech, donc on en parle peut-être plus et plus dans les détails que d'autres. Mais c'est important parce que c'est une technologie et un changement de paradigme, comme j'aime à le dire, qui va avoir des conséquences importantes. Donc voilà, je voulais noter cette chose-là et expliquer pourquoi je pense que, même si parfois on peut sentir qu'on en a un petit peu marre de l'IA, eh ben, c'est important de continuer à en parler, surtout pour un podcast tech qui couvre l'actu et les changements essentiels dans la tech et dans notre société. Alors, la raison pour laquelle je sous-titre cette petite partie... merde, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce que je disais ? Le début de l'invasion ? Non. Un truc comme ça. Pourquoi je sous-titre le début de l'invasion ? C'est parce qu'on a plusieurs exemples par lesquels on va illustrer la manière dont l'IA est déjà utilisée dans des conditions réelles, dans la société, dans le commerce. Et on va parler un petit peu maintenant. Tout à l'heure, Adrien m'a fait l'honneur et le plaisir de réunir une petite série d'utilisations dans le commerce, hein, puisque le café de l'e-commerce, tu connais bien tout ça. Mais de manière peut-être un petit peu balbutiante, un petit peu approximative, mais ça commence déjà quelques mois seulement après l'explosion de ChatGPT qui a mis ça encore plus sur le devant de la scène que ça ne l'était. Le premier exemple qu'on retrouve, c'est...
Patrick, si je peux me permettre.
Mais je t'en prie, permets-toi.
Avant, parce que je vois qu'on va aller dans les exemples concrets, mais j'ai une question qui me brûle depuis tout à l'heure, c'est... Pour moi, la raison dont il faut en parler également, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une technologie qui a aussi vite changé la façon dont j'opère. Et Par exemple, vous savez, alors, je travaille dans l'administration, on a souvent, on dit, ah, t'as vu le super rapport de l'ONU qui fait 460 pages sur tel ou tel domaine ? Avant, j'étais là, et ben, j'étais, non, et je ne vais sûrement pas le voir. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur ChatGPT, je dis, peux-tu me faire un résumé de ce truc avec l'URL ? Il me fait un résumé, je dis, attends, est-ce que tu peux dire un peu plus sur le point, le chapitre 5, là, qui a l'air pour moi ? Et après, je vais lire ce qui m'est utile. Donc, ce type de changement, c'est incroyable. Aussi, des fois, je dois écrire des longs emails un peu comme ça. Vous savez, l'administration, voilà, il faut, on ne cherche pas la créativité, hein, on cherche des trucs carrés. Donc, ChatGPT me fait le canevas génial. Je dis, peux-tu répondre à cette question de manière formelle ? Et j'ai un canevas. Et donc, sincèrement, ça s'inscrit déjà dans ma vie de tous les jours. Et donc, je paye les $20 pour ChatGPT. J'étais curieux de voir si vous aviez, au-delà de l'intérêt évident et de tout ce dont on va parler, si vous avez ce même impact pour vous deux.
Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui m'agace, c'est quand on compare l'IA à d'autres tendances que tu as mentionné tout à l'heure, Patrick. Et Benoît, c'est exactement ce que tu dis. C'est une techno qui va changer tout le monde, qui va impacter tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien que tu le compares à Internet. Ça a impacté tout le monde. Et d'autres technos, enfin d'autres tendances ou usages qu'on a pu voir, je mets métavers, NFT là-dedans également. Ça, finalement, ça touchait fortement un certain marché, mais c'était pas aussi universel. Donc je le vois vraiment comme une rupture. Et Benoît, ouais, moi j'étais day one à prendre l'offre payante et je découvre tous les jours des usages. Non mais en fait on est des explorateurs, on est en train de découvrir. Je suis tellement heureux de vivre en 2023. On est en train de vivre quelque chose, tu vois. Et je le dis autour de moi, c'est incroyable. On est en train de connaître ce que sera demain l'IA.
Donc est-ce qu'on a 3/3 utilisateurs payants, Patrick ? Pas de non. Pression ?
Non non. Ah. Pas payant. Patrick, pas payant. Je n'ai pas de cas d'usage précis. Enfin, si, je pourrais en avoir.
Patrimoine, il se cotise. Il faut plus de Patreon. Hein.
Puis là, ouais. non, c'est vraiment un choix de ma part à ce stade. Peut-être que je pourrais l'utiliser pour certaines choses, c'est certain. Mais à ce stade, je me contente de la version gratuite. Ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas. Mais ce que vous dites est intéressant parce que ça illustre très bien, comme les exemples que je vais donner, ces conséquences immédiates de l'influence de l'IA qui vont peut-être être affinées mais qui a priori ne vont pas disparaître. Et il y a une chose que j'ai particulièrement appréciée dans ce que tu disais, Benoît, c'est que tu te sers de l'IA comme outil pour te résumer certaines choses et après tu vas lire véritablement dans le matériel source ce que tu as extrait qui t'aurait semblé intéressant et que tu n'aurais pas pu percevoir aussi vite si tu n'avais pas eu cette IA qui t'avait aidé, si tu avais dû te taper les 350 pages directes. Mais tu retournes quand même au matériel source et tu ne fais pas une confiance aveugle à l'outil, ce qui, à ce stade en tout cas, est la bonne méthode. Et donc, là, vous avez quelques exemples, effectivement, de la parce que, comme je le dis, entre parenthèses, c'est mon mantra maintenant, l'IA pour, enfin ChatGPT pour les utilisations créatives, c'est super, ChatGPT pour les utilisations factuelles, c'est pas fiable, donc il faut aller vérifier derrière. Et bien, en parlant d'utilisation créative, il y a plusieurs articles qui ont été publiés cette semaine sur l'utilisation de ChatGPT notamment pour l'écriture de livres, qui sont, ou de livres ou d'histoires courtes, qui ont soit été publiés sur Amazon. Il y a plus de 200 livres publiés sur Amazon qui lisent ChatGPT comme auteur. Et donc, ceux-là, c'est ceux qui lisent ChatGPT comme auteur ou comme co-auteur. On peut imaginer qu'il y en a beaucoup qui le font sans lister ChatGPT comme co-auteur. Et il y a un magazine de science-fiction qui a publié qui a expliqué qu'ils avaient un problème avec les nouvelles qu'ils reçoivent, les histoires courtes qu'ils reçoivent, parce que généralement, depuis longtemps, c'est un magazine qui s'appelle Clark's World, ils publient des histoires envoyées par des lecteurs. Donc, c'est des écrivains en herbe ou des débutants qui envoient leurs histoires au magazine et ils ne reçoivent pas d'argent pour l'envoi des histoires, mais par contre, si l'histoire est publiée, le magazine paye une petite somme à l'auteur, au nombre de mots de l'histoire qui a été publiée. Et bien là, ils ont eu une augmentation drastique du nombre d'histoires envoyées qui, entre parenthèses, ont toutes des similitudes, sont un petit peu sur des mêmes formats, des mêmes templates. Et effectivement, on est passé de allez, une dizaine, vingtaine d'histoires envoyées à ce mois-ci, en février, plus de 500. Et évidemment, c'est que des trucs générés par IA. Donc là, c'est quelques exemples, mais il y en a d'autres. On voit que Spotify a créé un DJ qui est géré par une IA, qui va commenter les morceaux qui vont être diffusés sur votre station personnalisée avec l'engouement, enfin, comment dire, un enjoue, la joie du DJ qui dit tout bien comme il faut. On a, comme autre conséquence, dans un domaine complètement différent, des sociétés qui créent des IA qui sont en train de, d'embaucher ce qu'ils appellent des prompt engineers. Est-ce que vous savez ce que c'est que des prompt engineers ? C'est des ingénieurs requêtes qui savent comment formuler une requête à une IA pour obtenir ce qu'on veut et peut-être pour comprendre la manière dont on peut détourner ce que va dire l'IA, la manière dont on peut exploiter les failles de l'IA et pour ensuite mieux les corriger. Entre parenthèses, Meta est en train de développer des produits pour l'IA, enfin utiliser les IA génératives dans ses produits. Ils ont une équipe, une nouvelle équipe pour développer ce genre de choses et Elon Musk serait en train de discuter de l'idée de créer une nouvelle société ou un labo de recherche pour créer des IA génératives et des IA de chat. Bon, je ne sais pas qui va vouloir aller travailler pour Elon Musk aujourd'hui, mais il y aura sûrement des gens. Bon, ça c'est accessoire. Mais j'ai l'impression que ce genre d'exemple, je me retourne vers vous, j'ai l'impression que ce genre d'exemple, on commence à les voir déjà quelques mois après le lancement de ChatGPT, à les voir un petit peu partout, quoi. Vous nous donniez des exemples, vous, de ce que vous faites. Je me demande si vous l'avez constaté. Alors, on y viendra avec Adrien. Peut-être qu'on peut en parler maintenant, d'ailleurs. Aux exemples que tu as constatés, toi, dans ton domaine.
Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué et je pense qu'il faut je vais le redire et tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'IA, ça fait un paquet d'années que ça existe. Donc l'argument de dire bah il y a rien de neuf sous le soleil, si l'innovation c'est que ça a été mis à disposition de tout le monde avec une interface très très simple, on pourra en rediscuter. Donc depuis quelques mois, il y a un outil extraordinaire qui a été mis dans les mains de tout le monde et j'aurais pas imaginé que ça soit adopté tellement rapidement et qu'ensuite les enseignes, les marques, les professionnels s'en servent. Benoît, tu travailles dans l'administration et tu viens de nous dire que tu t'en sers. C'est certainement pas quelque chose d'officiel, mais toi tu t'en sers comme un outil et je pense qu'il y en a un paquet qui s'en servent. C'est pas officiellement, ils s'en servent pas, mais ils peuvent gagner en productivité ou ils s'en servent comme un outil. Et effectivement, dans les exemples que tu cites, moi il y avait pas mal de choses qui me faisaient réagir, mais en fait ça va disrupter des marchés entiers. Tu vois, tu parlais de l'édition, on pourrait faire une émission juste sur ça, sur le business model justement de comment on rémunère les pigistes par exemple. C'est quoi la valeur ajoutée d'un pigiste? Est-ce que les biais vont pas être reproduits dans les histoires? Il y a plein de questions qu'on pose. Mais en introduction, tu disais une chose et je voulais juste rebondir dessus. Il ne faut pas confondre la polarisation, je suis pour ou contre l'IA et la technologie de rupture qui est en train d'arriver. Et en fait, on mêle bien souvent les deux. On est en train d'expliquer, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et puis tu as des arguments qui vont te dire « oui, mais regarde, ça va supprimer des emplois, etc. » Je pense que ça, ce sont des choses qui sont différentes. Je peux te citer deux, trois exemples que j'avais listés justement dans l'e-commerce. Et c'est amusant parce que dans quelques épisodes, on voulait faire un épisode spécial intelligence artificielle parce que c'est exactement ça, l'invasion. J'aime bien le titre de ton épisode. Je vais peut-être te le repiquer parce que c'est vraiment en train d'arriver et au travers d'enseignes. Alors, j'en ai listé quelques-unes. La première, je ne sais pas, Benoît ou Patrick, si vous avez eu le temps de la regarder, elle dure quelques secondes. C'est Carrefour qui réalise sa première vidéo promotionnelle avec ChatGPT. Alors, il faut savoir que Carrefour, avant de parler de la vidéo, ils sont champions de l'innovation et de la communication. Ils font énormément de choses et peut-être qu'on ne le voit pas quand on est juste consommateur de Carrefour ou de Carrefour.fr, mais ils ont fait énormément de choses. Enfin, ils continuent à innover. Ils ont fait beaucoup de choses autour du live shopping, pousser le catalogue sur WhatsApp. Au Brésil, tu peux même acheter directement dans WhatsApp les produits Carrefour. Ils ont fait pas mal de choses sur le métavers. Ils ont une stratégie YouTube, etc. il y a quelques jours, ils ont publié une vidéo de 60 secondes d'un avatar qui répond à une question « Comment mieux manger et moins cher sur Carrefour.fr ?» et le texte a été généré par ChatGPT. C'est un coup de com', clairement, puisqu'il n'y a pas de vocation autre que de communiquer autour de Carrefour qui s'approprie cette technologie, qui montre, qui comprennent. Il faut se souvenir que Carrefour, c'est un très gros groupe. Donc, pour ce genre de boîte, de s'approprier une techno qui a juste quelques semaines ou quelques mois, c'est un exploit et ça te montre l'agité qu'ils ont derrière. Tu vois, il y a toujours la critique facile de voir l'avatar et de se dire, bah, il cligne pas des yeux, il est un peu robotique. Mais je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était très propre. Je n'ai pas réalisé que c'était un avatar et je pensais que c'était une blague, que c'est un avatar, tu sais.
Ouais.
C'était le premier. J'ai fait du truc. C'est tellement bien, en fait, que tu dis non, en fait, c'est une vraie personne. Et en regardant plus précisément, tu le vois que c'est un avatar.
Non, c'est...
Vous l'avez vu dans la vidéo, vous en avez pensé quoi?
Ouais, c'est, franchement, c'est intéressant. Oula, ça. Tu peux te muter quand je parle parce que ça fait un écho. C'est intéressant parce que. Je crois que c'est facile à critiquer. C'est facile de dire, ouais, bon, c'est un coup de com', effectivement, comme tu le dis, c'est un petit regardez, nous, on est Carrefour, on est innovant. Et on a déjà vu des sociétés qui font des choses comme ça avec le métavers, et c'est des exemples un peu ridicules, ou avec des NFT, où ils se précipitent, et puis finalement, ça va nulle part. Ce qui est intéressant à noter là-dedans, c'est qu'ils explorent. Et je pense qu'au contraire, le fait qu'ils aient exploré différents types de nouvelles technologies sur lesquelles ils ne sont pas forcément les plus grands experts pour l'application dans leur... Enfin, tout le monde n'est pas, je sais pas, journaliste, analyste tech ou ingénieur tech. Ou, je suis sûr qu'ils en ont dans leurs équipes. Mais là, ils explorent, ils regardent l'utilisation. Ça, je ne sais pas si ça aura une grosse utilisation. Ils posent la question, effectivement, à ChatGPT. ChatGPT dit, vous pouvez acheter des légumes et des fruits en saison. Vous pouvez... prendre des produits de la marque du distributeur, donc des produits moins chers, sans marque, etc., etc. OK, pourquoi pas. Mais d'une part, effectivement, l'avatar est très réaliste. Entre parenthèses, je vais le dire, on est trois mecs blancs, là. L'avatar, c'est une personne noire avec une chemise Carrefour. Et je trouve qu'il y a quelques années, peut-être 5 ans ou 10 ans, je ne suis pas certain que Carrefour aurait eu le réflexe de mettre en avant un petit peu de représentativité dont on a bien besoin dans tous les domaines de la société. Donc, je voulais juste le noter. Je trouve que tout le bruit qu'on fait, ça a des conséquences. Mais au final, oui, le mec est assez réaliste. Et puis, c'est surtout, là où ça m'intéresse, c'est que c'est surtout eu un moyen d'explorer ces technologies-là, de faire des trucs qui vont peut-être servir à pas grand-chose, et ils vont tomber sur des choses qui fonctionnent. Peut-être que ça va leur permettre de créer du contenu pour alimenter leurs réseaux sociaux, etc. Moi, je trouve ça, la vidéo en elle-même, bon, OK, sans plus. Mais l'initiative, je trouve que c'est non seulement intéressant, mais je dirais en plus que c'est important que des sociétés comme celle-là tentent ce genre de choses. Donc oui, moi, j'applaudis complètement, quoi.
Et donc ça, c'est Carrefour qui explique on est en train d'explorer, il faut un coup de com'. Et tu as ensuite une société, c'est Undies. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Il y en a en Suisse ou c'est en Norvège, Patrick ?
En Finlande. Mais je connais Undies parce que je suis aussi à Paris de temps en temps.
Ouais, donc c'est le groupe Etam. Et là, tu as, il y a quelques jours, pareil, une responsable, je crois que c'est la responsable digitale d'Undies qui t'explique qu'ils utilisent ChatGPT. Et alors, ils utilisent pourquoi ? Et donc là, on est vraiment dans l'e-commerce. Faire des fiches produits, donc la description, générer de la description. Et tu sais, vous le savez, avec ChatGPT, tu peux lui dire, fais-moi une description en 300 caractères, voilà le contexte, les fiches techniques, et puis le générer. Tu peux même lui dire, voilà ma cible, donc tu adaptes le ton. Rédiger du texte pour la newsletter, ça va peut-être te donner des idées, ça, Patrick, pour ta newsletter, et traduire dans différentes langues. Donc ça, c'est trois use cases, mais dans l'e-commerce, on peut aussi avoir généré des titres qui soient, tu sais, optimisés pour les moteurs de recherche, pour le SEO. On peut générer des FAQ. Je travaillais sur un projet, ça m'a mis 5 minutes de générer de 10-15 questions FAQ pour un site particulier. Donc ça, c'est canon. Créer des pages particulières ou le chatbot. Le chatbot, c'est l'usage, à mon avis, le plus simple ou le plus classique, finalement, dans tout ça, puisque c'est interagir en temps réel. Et le chat, ça existait depuis longtemps. Mais je trouvais ça important qu'il l'utilise et qu'il communique autour de ça.
Je peux te poser une question parce que j'ai l'impression, là, peut-être l'angle que j'ai, c'est pas tout à fait le même. Parce que quand je vois ChatGPT, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le côté IA. Toi, par exemple, nous, on utilise DeepL au travail parce qu'on est dans un milieu multilingue qui est de l'intelligence artificielle depuis 2 ans, quoi. Et donc, personne ne s'enthousiasme. Toi, on aimait les résultats. Et je pense que générer des textes courts et tout ça, c'est des choses qui se font depuis un moment. Les textes, tous les rapports sportifs qu'on a dans la presse maintenant, 1/2, c'est déjà de l'intelligence artificielle depuis un moment. Donc moi, le changement clé, c'est le prompt, en fait. C'est le fait que ce soit l'accessibilité du prompt. Donc, je ne sais pas comment on le dit en français, si on a déjà un nom.
Les requêtes ou l'aspect conversationnel même, parce qu'on peut dire, oui, OK, ça, c'est comme ça, mais modifier un petit peu facilement. Là, fais-le plus SEO-friendly, là, fais-le dans une autre langue ou d'une autre manière.
Benoît, c'est comme les bring your own device, c'est arrivé par la petite porte, par les personnes, le personnel, enfin les employés. Ouais. On commence à l'utiliser et ensuite c'est arrivé. Et les autres startups ou les autres technologies, elles arrivent par le haut. C'est la boîte qui décide, bon, on va aller avec ce prestataire-là et puis on va former les équipes. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend aussi vite. Mais oui, dans les usages, il y a encore tellement, tellement à faire. Je trouvais ça juste intéressant qu'en plus, ouais, ils communiquent autour de ça.
Mais tellement qu'a déjà été fait, c'est ça que je veux dire. C'est que là, tout ce que tu me dis, moi, que j'entends, c'est qu'ils recyclent des trucs qu'ils faisaient déjà sans doute beaucoup, mais qu'ils profitent aussi de dire « Ah, regardez, on le fait !» Mais parce que pour moi, enfin, c'est des usages de l'IA qui sont, qui existaient, donc qui ressortent maintenant, quoi.
Je ne suis pas certain que... Parce que là, on a vraiment, avec ChatGPT spécifiquement, la possibilité d'affiner le style, la longueur, l'usage.
Voilà, ouais.
Et oui, bien sûr que l'intelligence artificielle était présente un petit peu partout, à tous les niveaux de toutes les industries, sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais là, des IA génératives et dans le cas de ChatGPT conversationnel, je pense que ça change les usages. Et c'est ça qui fait que, par exemple, quand tu dis à un ChatGPT, pour obtenir le texte qu'ils ont fait lire par leur avatar chez Carrefour, ils sont pas contentés du premier prompt, enfin de la première réponse. Ils ont dû lui dire oui, mais là mentionne quand même les produits de Carrefour, ou tu vois. Je suis sûr qu'ils ont changé un petit peu. Ils n'ont pas pof première réponse. Donc, et ces outils n'existaient pas jusqu'à ChatGPT, ou en tout cas n'étaient pas vraiment facilement accessibles. Donc je pense vraiment que ces quelques derniers mois, peut-être qu'il y a un petit peu de recyclage et tu vois, Etam qui dit « Nous, on est super jeunes, c'est au fait des nouvelles technologies », alors qu'ils utilisaient déjà ça. Je pense qu'il y a quand même... c'est pas rien derrière, tu vois.
Non, mais c'est,
d'ailleurs,
c'est
elle cite ChatGPT à plusieurs reprises. Pardon.
Et je pense que l'idée, c'est ce qu'on dit tout le temps. On a passé... Combien d'années on a passé à se dire « Quelle sera la nouvelle plateforme ?» Et puis, on avait des outils qui étaient un peu disparates en IA. Mais là, ce qu'on voit, et c'est pour ça que c'est excitant, c'est le côté plateforme. C'est ce côté transversal. Et alors, je trouve que tes exemples le mettent bien en avant. Hein. C'est que peut-être qu'avant, ils le faisaient... mais moi, je pense qu'ils le faisaient déjà un petit peu à gauche, à droite, comme ça. Et puis maintenant, ils ont quelque chose qui peut vraiment généraliser, où tu n'as pas besoin de spécialiste du domaine pour l'implémenter, tout ça. Et c'est ça, en quelques semaines, qui s'est passé. Parce que c'est vrai que derrière, on l'a bien dit avant, il y a des années et des années déjà de travail et de choses qui ont été faites, quoi. Donc, moi, c'est l'angle comme ça où je regarde ce dont tu nous parles. Et je trouve hyper intéressant, en tout cas, tous les exemples aussi que tu nous as donnés.
Est-ce que ça ne vous inquiète pas justement qu'on revive le fait qu'il y ait plein de plateformes qui coexistent ? Il va falloir standardiser, il va falloir qu'elles puissent communiquer. Je vois déjà des acteurs qui agrègent les différentes IA pour ensuite remettre une surcouche et verticaliser. Bah, si tu es dans la banque, dans le retail ou dans le média, tu vas devoir entraîner ton modèle différemment. On ne va pas retomber sur un truc où il va y avoir tellement de solutions, de plateformes différentes qui ne communiquent pas, que ça va encore créer ce qu'on a connu dans la techno avec les téléphones, etc.
Bah. C'est toujours compliqué cet équilibre entre compatibilité et concurrence, parce que quand tu as moins de plateformes différentes, disons que tu as une expérience utilisateur qui est peut-être un petit peu plus simplifiée, mais tu as aussi moins de concurrence mécaniquement. Et donc, je trouve qu'à ce stade, les dés ne sont pas encore jetés, mais il serait bon qu'on ait différentes plateformes, même si elles ne sont pas forcément entre guillemets compatibles entre elles, et que tu ne peux pas avoir une plateforme avec texte et images et son en même temps. Ça finira par arriver, tout ça. Ce qui m'inquiète, ce sur quoi je garde un œil plutôt, c'est de voir qui va émerger comme les acteurs dominants dans ce domaine. Et je crois que c'est déjà un petit peu plié. On va avoir... Microsoft avec Bing, Google avec ses outils à eux, Meta, comme on le disait, est en train de travailler très très fort avec, comment il appelle, Llama, enfin bref. Et toutes les petites structures qui sont en train de développer ces outils bah, ne peuvent s'exprimer de par l'importance des recherches et l'infrastructure dont on a besoin derrière qu'avec des gros acteurs existants. Donc c'est plus ça qui me préoccupe. C'est pas parce que ce type de changement de paradigme, ça devrait amener un renouvellement des acteurs. Et là, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc il est encore tôt, mais c'est ça qui me préoccupe un petit peu plus. En tout cas, que je constate. Je sais même pas si ça me préoccupe tant que ça, mais.
Peut-être qu'il y a quand même de la place pour d'autres. Hein. Moi, je voyais Quora qui annonçait récemment qu'ils avaient leur nouveau engin AI qui s'appelle Po. Et c'est typiquement peut-être des structures, des sites qui étaient sur le déclin et qui peuvent tout à coup, parce qu'ils ont le contenu, vraiment reprendre de l'avance. On parlait de Reddit avant l'émission. C'est vrai qu'eux, ils ont aussi du contenu. Alors, pour faire d'autres trucs, et je me dis, ça va être intéressant parce que finalement, tous ces... on en parlait, je ne sais même pas dans quelle année, user-generated content. Il y aura peut-être quelque chose à exploiter là qui ne sera pas forcément accessible, justement. Alors, Facebook, c'est le cas, mais aux autres. Et donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va complètement changer les dynamiques d'accès au contenu. Parce que ça devient, on savait que c'était déjà précieux, mais maintenant, on a encore plus intérêt à le protéger parce que ça va nous permettre justement de nous distinguer.
Je vais avancer sur d'autres sujets, à moins qu'il y ait d'autres exemples que tu voulais donner, Adrien.
Non. Juste pour citer un dernier, c'est Coca-Cola qui annonce en grande pompe qu'ils font pareil, qu'ils signent un gros partenariat. Tu lis l'article, il est complètement vide. En fait, ils ne vont pas dévoiler qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais ça te montre qu'ils l'utilisent peut-être, ils le voient comme un élément également différenciateur, concurrentiel pour se positionner. En tout cas, mon point, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a ceux qui communiquent et il y a tous les autres qui l'utilisent et qui ne communiquent pas. Donc oui, il y a un vrai truc qui est en train de se passer et l'invasion, on est juste au début. On est au début du début de ce qui est en train d'arriver pour la suite. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça c'est une autre discussion, mais ça touche même le retail, même l'e-commerce dans lequel je baigne tous les jours. On a vu cette IA débarquer et il n'y a pas un épisode chaque semaine où on ne parle pas d'IA.
Là où peut-être ce qu'on devrait noter, c'est que on est plus proche, je crois, comme tu le dis Adrien, du bring your own device que du gros truc qui est amené par le haut. Et du coup, peut-être que ça va arriver par petites touches à tous les niveaux des organisations et que ça va faciliter certains processus, certaines, comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'utilise mon truc pour me résumer des gros articles ou pour me rédiger des emails un peu fastidieux, etc. Et je crois vraiment qu'à ce stade, ce qu'on peut voir en tout cas, ce que ça montre, c'est que c'est une augmentation a priori, hein, on espère, de la productivité, qu'on va faire, on va se décharger des tâches un petit peu rébarbatives, un petit peu chiantes, et se concentrer sur des choses qui le sont moins, ça augmente a priori la productivité. Donc, les sociétés, les grands patrons sont contents, et j'espère que nous aussi, on sera contents. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas impacter, évidemment, l'organisation des structures de travail. Et de fait, même dans les exemples que tu donnais, dans certains articles, certains disent, bah oui, du coup, ça nous permet de réduire les appels à des acteurs externes. Donc on n'a pas plus besoin de faire rédiger un truc par un acteur externe qu'on va revoir nous de toute façon avant de le publier, bah, on le fait rédiger par une IA et nous on va le revoir aussi et tous précisent ça, hein. C'est bien parce que les gens ont compris, il ne faut pas juste lui faire une confiance aveugle, on va revoir, on s'en sert comme d'un outil pour améliorer notre production, mais on repasse derrière et c'est nous qui sommes responsables, on en parlait la semaine dernière, donc et ça c'est plutôt positif.
Une petite réflexion, parce que c'est amusant, Benoît, tu as rebondi dessus, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais l'aspect éthique, tout le monde en a conscience. Enfin, j'aurais imaginé qu'il aurait fallu se battre, etc. Dans un an, c'est encore le combat. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des problématiques, il y a des biais, etc. de l'IA. Tous les articles, même sur des sites généralistes, ils le soulèvent. C'est plutôt bien ça, non ?
J'ai l'impression, bah, du coup, ça me permet de parler d'un sujet que je voulais évoquer aussi, maintenant, plutôt que dans quelques minutes. C'est cet aspect et la démarche de OpenAI et des autres acteurs de ce domaine qui ont pour moi été quand même assez responsable. Alors, il faut quand même avancer. Et puis, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, forcément, l'innovation technologique fait partie des moteurs. Et donc, on va forcément avancer un minimum ou un maximum. Mais, comme on l'a fait remarquer à plusieurs reprises, oui, évidemment, si on va traficoter les conversations, on peut réussir à leur faire dire des trucs qu'ils ne sont pas censés dire ou les faire trébucher à un moment. Mais d'une manière générale, je trouve que ces IA ont été conçues avec une vraie préoccupation de questions éthiques. Et c'est à leur honneur, même si ça ne marche pas systématiquement aussi bien qu'on l'aimerait. Et encore une fois, OpenAI, qui est une société un petit peu particulière, ils ont un statut spécial, non-profit, etc. Mais ils ont publié une sorte de tribune où c'est très haut niveau, hein, high level, ils expliquent leur approche de l'AGI, Artificial General Intelligence, qui est l'idée théorique à laquelle on pourrait arriver un jour, qui est une vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait comparable à ce que peut faire un cerveau humain. Donc vraiment un raisonnement, pas une conscience, mais enfin qui soit très très proche d'une vraie intelligence comparable à une intelligence humaine. En fonction des spécimens, ça peut être débattu. Mais ils disent beaucoup de choses. En gros, ce qu'ils disent, c'est il faut faire attention, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit responsable, il faut que les usages et la manière dont c'est implémenté se fassent au bénéfice de l'humanité, au global, même s'il y a des choses qui sont négatives sur certains points ponctuels. Et puis, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant à la manière dont tout ça va être régulé. Et je trouve effectivement, comme tu le disais, Adrien, que c'est des réflexions qui sont hyper présentes dans cet univers qui débute, dans cette industrie qui débute. Et j'irais même jusqu'à dire, on a tendance à avoir peur du fait que l'intelligence artificielle suive, et avec raison, on doit se préoccuper de ce sujet, mais que l'intelligence artificielle suive le chemin des réseaux sociaux ou des géants de la tech qui ont grossi très vite pour grossir et qui sont préoccupés des conséquences ensuite. Je trouve qu'on ne suit pas, qu'on a retenu, dans différentes mesures, mais qu'on a retenu les leçons de ça. Et je trouve aussi qu'il est important que les instances représentatives des citoyens et de la population s'y intéressent également. Parce que c'est bien beau de dire aux sociétés et aux géants de la tech, « Ah, oh, mais attention, vous faites n'importe quoi, et puis ensuite, vous cassez tout, et après, vous ne voulez pas. » Alors, c'est vrai, c'est important de le dire, mais il y a un autre aspect à ça aussi, qui est qu'il faut que les appareils législatifs s'intéressent à ces sujets également et n'attendent pas les conséquences, comme ça a été le cas, et c'était la faute de personne, on ne savait pas, mais n'attendent pas les conséquences pour y réfléchir. Et du coup, je me retourne là vers Benoît, qui est, comme je le disais, représentant de toutes les administrations gouvernementales du monde aujourd'hui pour l'émission. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle ? Benoît, vous êtes endormi au volant ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je plaisante. Mais est-ce que tu sens que... Je ne vais pas parler de ton administration à toi spécifiquement, forcément, mais... Toi, tu es dans un domaine qui est un petit peu technophile. On commence à s'intéresser ou à se poser des questions ou on n'y est pas encore ?
Ouais, alors, je pense que ChatGPT, typiquement, ce n'est pas le truc qui va faire réagir les administrations. Mais pour donner un exemple, nous, on a déjà des vraies questions au niveau de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a un projet qui est assez connu dans notre milieu, mais qui permet simplement de repérer à l'aide d'une intelligence artificielle les pistes d'atterrissage dans les avions. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert que s'il y a un problème dans le cockpit, tout à coup, l'avion peut tout seul, il y a son logiciel, décider où aller se poser. Et donc, à partir de là, on peut faire plein de choses. Et la question, c'est comment on s'assure que ça fonctionne, etc. Et puis, comment on s'assure qu'on comprenne toujours ? Je pense que un des gros challenges, on en parle depuis des années à l'interne, c'est le côté boîte noire. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe, mais du coup, on ne peut pas expliquer. Et du coup, s'il y a une erreur d'attribution, typiquement, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis, personne n'est coupable. Et puis, on ne comprend plus rien. Ça, c'est compliqué. Par contre, après, je pense qu'il y aura quelque chose au niveau des potentiellement des biais à faire. Moi, je ne suis pas extrêmement en souci par rapport aux technologies dont on parle aujourd'hui, parce qu'au final, elles génèrent de manière probabiliste, basée sur des corpus, des textes, voilà, qu'on sait déjà. Donc, une fois qu'on a trié les données, c'est pas, je ne vois pas de problème insurmontable ou incroyable. Je pense qu'il y a, il y a d'autres domaines dans la tech où c'est plus compliqué. Je sais pas, est-ce que... Donc, sincèrement, moi, à l'état actuel, hein, je dirais plutôt, c'est très bien de laisser faire. Et c'est une approche, alors peut-être qui est aussi liée à une certaine culture qu'on a en Suisse par rapport à l'innovation, mais c'est facile après de dire on aurait dû, évidemment, mais tout le but de l'innovation, c'est d'explorer. Alors, il faut mettre des garde-fous, mais de les mettre trop tôt, moi, je ferais ni confiance à l'administration, un peu plus aux politiques, mais peut-être pas tout de suite, pour décider. Il faut d'abord laisser la société s'emparer de quelque chose, d'une technologie, et puis après réagir. Mmh. Alors, on le voit...
Pour ne pas tomber dans l'excès inverse, quoi.
Voilà. Et puis, c'est la même chose, c'est une question qu'on avait avec Uber à l'époque. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et il y avait plein de critiques qui se sont révélées être tout à fait justes. Mais d'un autre côté, ça a aussi amené plein de bonnes choses. Donc, voilà, laissons un petit peu se développer les technologies, je dirais.
Ça fait le lien, justement, Patrick, je trouve, avec l'article que qu'on évoque. Parce qu'en fait, ils ont appris de tous ces scandales et répondent aux questions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand tu lis entre les lignes, tu vois tous les travers, les biais, tout ça, ils en ont conscience. Et donc, c'est pour ça que c'est courageux de leur part. Bon, enfin, ça ne leur coûte rien de mettre ça. Mais je sens beaucoup de culture open source. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi avec tu vois, des valeurs sur le partage, l'ouverture, le bien commun, etc. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et une chose que j'ai apprise, donc peut-être que d'autres auditeurs également se posent la question, OpenAI, il y a le mot ouvert. On se sera attendu à ce que tout soit ouvert, que ça soit vraiment open source et qu'on l'ouvre tout. Et non, ils l'expliquent dans ce communiqué, enfin dans ce texte, ils disent à la base, on voulait vraiment tout ouvrir, mais en fait, en avançant, on s'est rendu compte que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et donc, beaucoup de choses sont ouvertes, mais il y a des parties qu'on n'ouvrira pas. Oui. Et si tu vois les spammers, les scammers et tu peux dire, ouais, ils n'ont peut-être pas tort de protéger une...
Ou après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de milliards à se faire que ce qu'on avait vu, parce que OpenAI, ils sont en train de partir du côté non-profit. Hein. Donc maintenant, ils ont quand même une structure qui leur permet de faire... Donc, je vous rappelle qu'il y a une société connue, on va pas la nommer, dont le slogan était « Do no evil ». Il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord que c'est toujours le cas. Au début, c'est toujours simple. Donc, on est d'accord. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut laisser grandir, parce que les excès, ils viendront après. Donc, sincèrement, moi, je crois que oui, l'histoire va se répéter. Il y aura quelqu'un qui va dominer, qui va sans doute profiter un petit peu trop. Puis là, ça sera le moment d'agir. Mais vous croyez franchement que c'est fondamentalement différent? Est-ce qu'il y a une raison de croire que ça ne va pas prendre le même chemin que... tout le reste qu'on a vécu ces 15 dernières années?
Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai vraiment l'impression que les sociétés ont été prudentes, pas pour le plaisir, pas parce qu'ils se disent « Oh là là, il faut vraiment faire le bien de l'humanité ». Encore que OpenAI, je ne sais pas, ils sont un peu particuliers, mais pas pour le plaisir, mais simplement parce qu'ils ont vu comme les précédents se sont fait taper sur les doigts. Et du coup, ils se disent « Bon, faut pas qu'on ait trop de bad buzz. Et donc, ils ont été plus prudents sur ces aspects. Mais
C'est le moment Microsoft de Google, parce que Microsoft a arrêté d'innover un temps à cause justement de toute la pression et des procès, etc. Et Google était clairement en avance, DeepMind, etc. On connaît tout ce qu'ils ont fait aussi. Mais clairement, c'est vrai qu'eux n'auraient pas pu. Ils n'étaient pas dans une position, à mon avis, de le faire.
Adrien ?
Et il y a un autre aspect où c'est pas de leur fait, c'est... il y a eu un succès, il y a des serveurs à payer, il y a des coûts, et donc il faut faire rentrer de l'argent. Et donc, comment est-ce que tu fais de rentrer de l'argent? Il faut trouver des business models. Et donc, du coup, derrière, il y a des annonceurs, il y a des sociétés qui ont un intérêt. Et c'est là où parfois tu peux avoir des vœux pieux au départ, mais ensuite il y a la réalité économique. Si tu veux continuer ton business, il faut faire ramener de l'argent, et c'est là où on verra si c'est ou pas. Ma première réaction, pardon Patrick, c'est la première note que j'ai prise quand je prenais mes notes en lisant l'article, c'est je n'y crois pas une seconde, et j'ai mis Google, Meta en exemple de ces sociétés qui au départ disaient on va changer le monde, on est le nouvel ange descendu du ciel, quoi.
Oui, on nous parle évidemment dans la chatroom de ethic washing, genre aussi regardez, on est très bien. Alors le truc, c'est que sur ces sujets-là, comme on l'a vu et on le verra encore dans la suite de l'émission, et on va avancer un petit peu, à un moment, il y a une force contraignante des gouvernements. Et on a beau faire et dire tout ce qu'on veut, les gouvernements sont ceux qui ont le pouvoir pour certaines choses. Et du coup, il faut quand même play ball, comme on dit en anglais, il faut quand même faire ce qu'on dit. Donc, on en parlera un petit peu plus. Et là, le fait de mentionner ces choses-là et d'amener ces sujets sur le devant de la scène, c'est aussi inviter les gouvernements à se préparer. Et je crois que c'est important qu'on en ait tous conscience et qu'ils en aient conscience aussi.
Juste une dernière petite chose, je sais qu'il faut qu'on avance. Depuis qu'ils ont ouvert, avec tous les mini-scandales qu'il y a eu sur comment on peut débloquer, faire dire des choses sur l'IA, ils ont été extrêmement réactifs et ils ont fait un sans-faute pour le moment, je trouve. Leur communication et la manière dont ils le gèrent, et ils avancent sur une ligne tellement dangereuse entre tomber d'un excès ou un autre, et tu parles souvent des États-Unis qui sont complètement polarisés des deux côtés. Je trouve que pour le moment, ils sont plutôt bien, donc j'ai un a priori plutôt positif, même si je suis, comme vous, on est des vieux briscards, on en a vu des sociétés venir et puis partir, mais pour le moment, je trouve quand même que c'est pas mal ce qu'ils ont fait.
Et ouais. Bon, plus on arrive à forcer à faire dire un truc vraiment, à un moment, je me dis, c'est pas la société qui est responsable. Bravo à la personne qui a réussi à faire le truc, mais voilà, moi j'ai pas vu d'exemple vraiment choquant de quelqu'un qui était innocemment là à demander une question toute bête, quoi.
Il y a plein de choses qu'on pourrait mentionner, mais effectivement, d'une manière générale, ils essayent d'éviter de dire des trucs. Trop inflammatoire, des choses. Ils ont travaillé leur truc, on en a parlé à plusieurs reprises, mais on ne peut pas tout prévoir. Et par exemple, il y a un journaliste de Vice.com, on a vu que Vice France va fermer malheureusement, mais Motherboard, donc la verticale tech de Vice, qui s'appelle Joseph Cox, qui a utilisé une IA, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un outil par IA, qui génère une voix à partir de quelques extraits de voix existants et qui génère une voix synthétique et qui s'en est servi pour avoir accès au compte bancaire d'une personne. Alors, en l'occurrence, c'était lui. Mais il n'empêche, il a réussi à accéder. Comment, me direz-vous ? Eh bien, la banque avait comme système de protection une reconnaissance vocale. Et donc, on appelle au téléphone et dans notre propre voix, on dit « je m'appelle truc, je suis né à tel moment, ma voix est mon mot de passe ». Et quand la banque reconnaît votre voix, elle vous laisse accéder au compte et faire toutes sortes d'opérations. C'est évidemment possible si vous avez un enregistrement de la personne. Là, ce n'est pas le cas. On peut prendre n'importe quel extrait de voix et avec une IA, générer une voix synthétique qui va dire tout ce qu'on veut. Et donc, si, par exemple, un créateur de contenu dont on a beaucoup accès à des extraits de voix, mais même pas besoin, on a besoin généralement de quelques secondes, allez, une minute de voix, et ça peut recréer une voix convaincante. Et donc là, c'est un des exemples de faille de sécurité. Et c'est tellement grave que, du coup, les experts en sécurité sont en train de dire aux banques, tous ceux qui utilisent ce système, qui n'est pas hyper répandu non plus, vous avez intérêt à le changer tout de suite. Parce que c'est une faille hyper facile à exploiter. Et vous vous en doutez, vous comprenez bien que ça c'est facile à utiliser, quoi.
Patrick, juste une chose sur cet article, pardon. Moi, je suis de nature sceptique, donc je suis allé voir l'article, j'ai essayé un peu de creuser. Il ne répond pas à certaines questions. Premièrement, ce n'est pas juste la voix, mais il demande à un moment donné dans la vidéo qu'il poste la date de naissance et il y a peut-être d'autres informations qu'il demande. Mais on peut dire, tu peux les trouver en ligne, etc. La deuxième chose, il appelle de son numéro personnel et je suis presque certain, mais ça, je ne peux pas affirmer ou confirmer, que la banque détecte le numéro d'appel. Il voit que c'est ton numéro sur lequel tu appelles d'habitude et donc il y a peut-être une sécurité qui n'est pas renforcée. C'est sûr qu'il y a eu un maillon de la sécurité qui a été bypassé, certes, mais en fait, bon, voilà, tu vois, il y a deux éléments. En fait, l'article laisse à penser que ça y est, avec l'intelligence artificielle, on peut simuler des voix et pénétrer n'importe quelle banque. Bon, c'est pas vraiment ça.
Je ne crois pas que ce soit très dur d'imiter un numéro de téléphone, hein. Je ne suis pas hyper au point sur mes technologies telco, mais je suis sûr que dans tes auditeurs, auditrices, il y aura plein qui vont pouvoir le dire. Mais à mon avis...
téléphone, oui, je pense que ce n'est pas très compliqué, mais disons qu'au-delà de ça, là où c'est intéressant, c'est que c'est un élément de la chaîne de sécurité d'accès au compte bancaire. Hein, ce n'est pas n'importe quoi. On peut faire des transferts une fois qu'on a accès à ce truc. Bon, après, il y a peut-être d'autres mesures de sécurité derrière, mais c'est un des éléments qui était considéré comme un truc quand même très sûr avec la voix. Comment est-ce qu'on va tout à coup recréer la voix de quelqu'un ? Et en quelques mois, cet élément s'effondre complètement. Et oui, il y a sans doute d'autres mesures de sécurité. Yeah. Adrien, t'as pas tort. Moi, je serai les banques. Je ne prendrai pas le risque. Hein. Demain, je fais supprimer cette merveilleuse solution qu'ils ont implémentée, sans doute convaincue par des commerciaux très, très doués, tu vois, qui ont dit ah, « avec ce truc, c'est très facile pour vos utilisateurs, c'est inviolable, c'est machin. » Et du jour au lendemain, c'est un peu plus compliqué.
Et c'est pour ça que j'adore la tech où on évolue. Il y a quelques jours, c'est les doubleurs de films ou dessins animés qui se plaignaient parce qu'on utilisait leur voix pour faire dire n'importe quoi. Quelques jours plus tard, on a un use case réel qui fait flipper. Tu vois, d'un penchant rigolo à un autre qui te fait moins rire.
On a aussi un autre élément qui est pour le coup encore une conséquence sur la société qui est hyper importante. Il y a de plus en plus de gens, de créateurs de contenu, mais même pas forcément seulement, qui n'arrivent pas à prouver qu'ils sont humains. C'est-à-dire que les IA et les ChatGPT, etc., et les bots et les avatars créés par IA sont devenus tellement convaincants ou permettent tellement d'avoir un doute qu'il y a des gens sur TikTok ou sur Reddit ou sur d'autres types de plateformes qui disent « moi, je poste des trucs » et les commentateurs répondent « Ah mais non, mais ça c'est un bot de toute façon, c'est pas vrai, et c'est pas une vraie personne. » Et tu sais pas comment prouver que t'es une vraie personne. Alors oui, tu peux peut-être aller sur Twitter et poster une photo de toi en train de tenir un article de journal de la date de machin. Mais sur le principe, je trouve ça vraiment intéressant comme conséquence, le fait que non seulement les bots et les IA envahissent l'espace du net, mais que l'une des conséquences soit, quand on est un humain, un créateur de contenu, ou simplement qu'on veut commenter, etc., eh bien, dans le regard des autres, on n'est plus certain d'être un humain ou un bot, et on est un peu démuni, quoi, parce qu'on n'est pas tous une personnalité publique très connue qui va pouvoir, on s'en fout. À la limite, c'est juste que les gens vont se dire, ah bah, je ne sais pas si c'est un bot ou un humain, je ne suis pas certain et je m'en fous de toute façon, donc j'avance. Ça, c'est une tendance qui m'inquiète un petit peu parce que ça ajoute de la confusion et du désintérêt des gens. Parce que quand on ne sait pas, ben on a tendance à ne plus y réfléchir et se dire « bon, ben, je ne sais pas, je m'en fous, terminé ». Ouais. Parfois, ça peut être sur des sujets importants, parfois pas très importants, mais cette tendance est vraiment intéressante, je trouve.
Et d'ailleurs, ça donne raison à Sam Altman, hein, donc qui est derrière ChatGPT, enfin OpenAI, parce qu'il a un autre projet dont je suis sûr que tu as déjà parlé, qui s'appelle WorldCoin. Vous savez, peut-être c'est ce projet crypto, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est où on scanne la rétine des personnes pour ensuite valider que ce sont effectivement des vraies personnes. Et le côté crypto sert justement à prouver qu'on est qui on dit. Mais ça devient hyper intéressant parce que lui, il a lancé ça il y a quand même, je sais pas, en tout cas 2-3 ans, je dirais. Donc, il a vu venir bien en avance que ce que tu viens de décrire sera un énorme challenge. On ne pourra plus juste avoir un système qui regarde plus ou moins à quelle vitesse tu réponds, puis ce que tu dis pour déterminer
les captcha si tu es humain ou pas.
Ça, c'est mort. Donc, je suis très curieux de voir comment est-ce qu'on va y arriver. Alors, WorldCoin. Pourquoi pas, du coup? Tu sais, je vais peut-être aller regarder de nouveau. Est-ce qu'on organise une retina scanning party pour toutes les personnes qui écoutent le rendez-vous tech? On fait à plusieurs endroits, à Paris, en Suisse, et puis on va tous se faire scanner. Comme ça, on pourra enfin prouver qu'on est des humains, ce qui est pas mal.
Je suis sûr qu'il n'y a aucun danger avec les données personnelles. Tu vois, donnons tous nos empreintes digitales.
C'est Sam Altman. Il ne peut rien se passer de mal.
Mais bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que les systèmes existants de CAPTCHA, etc., c'était pour prouver à une machine qu'on est un humain. Et ça, visiblement, ça a l'air encore possible. Là où c'est difficile, c'est de prouver à d'autres humains qu'on est un humain quand on passe par l'intermédiaire du net. Ça, c'est quand même un petit peu, ça laisse perplexe.
Dans l'article, ils expliquent qu'en 2014, sur les CAPTCHA, l'intelligence artificielle pouvait passer les CAPTCHA à 99%. Et pour les humains, Benoît, je ne sais pas si c'est l'article, tu sais c'est à combien ? C'était à 33%. C'est-à-dire qu'en fait, la machine est plus humaine que les humains. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les captchas, ça ne marche pas. L'autre phase, c'est dans les fintech. Tu sais, on prend le téléphone et puis on doit le scanner, on doit faire des choses, mais c'est hyper contraignant. C'est pour ça que, Benoît, ce que tu décris, ça peut être pas mal. Quelque chose avec, si on a un téléphone qui regarde l'iris, pourquoi pas. C'est toujours entre est-ce que c'est facile à mettre en place ou est-ce que c'est trop lourd, quoi, pour poster un message sur Internet.
Un WorldCoin, c'est lourd, mais à regarder, c'est intéressant.
Le prochain grand défi, trouver un moyen sûr de prouver au reste des humains qu'on est bien un humain. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Oui, il y avait quand même un truc marrant. Les iPhones sont redevenus un objet de convoitise, non pas parce qu'on veut simplement les iPhones, mais pour les voleurs, ils les utilisent pour accéder à toute votre vie. C'est-à-dire que si un voleur réussit à vous observer en train de taper votre code PIN pour débloquer votre iPhone, eh bien, si ensuite il va vous voler votre téléphone, il a accès à toute votre vie. Parce que tout est protégé par ce mot de passe, ce code PIN, qui a priori n'est pas facilement accessible, mais si on réussit à le trouver en regardant la personne pendant qu'elle débloque son téléphone au café ou au parc ou Dieu sait quoi, ensuite, vous lui volez le téléphone. En deux secondes, bon, pas en deux secondes, mais en une minute et demie, vous avez changé le mot de passe du compte iCloud. Vous avez supprimé les outils de repérage de téléphone, les Find My, tout ça. Et vous avez accès aux emails, donc aux confirmations, peut-être aux applications d'authentification double facteur, aux applications de stockage de mots de passe, aux applications de banque, à tout. Et donc, visiblement, aux États-Unis, en tout cas, et j'imagine que ça se diffuse très, très vite, ce genre de choses, la recrudescence des vols de téléphone avec observation du code PIN est très inquiétante. Donc, faites gaffe.
Android, c'est... Alors, j'ai pas d'iPhone, j'ai un Android. C'est cool. Ouais.
Évidemment, ça fonctionne sur Android aussi. Et ils en parlent dans l'article du Wall Street Journal. Ça fonctionne sur Android aussi. Mais... généralement, les utilisateurs d'iPhone sont des cibles privilégiées des voleurs parce qu'ils ont, sans doute, ils sont plus riches, ils ont accès à, tu vois, leurs comptes en banque sont mieux garnis ou ce genre de choses. Donc, c'est un danger pour Android, mais les iPhones restent les cibles privilégiées. Donc, désolé, Adrien, ça veut dire que, clairement, tu es pauvre. Et Benoît, tu as un iPhone ?
J'ai un Android et un iPhone.
Ah bon, c'est
le luxe.
Donc toi, t'es
en Suisse,
super.
C'est normal.
Moi, je suis juste, riche, j'ai juste un iPhone.
Tu vois, on parle de représentativité, c'est magnifique.
Et allez, un autre truc, puisqu'on parle de sécurité, des chercheurs de Berkeley ont réussi à identifier des personnes qui utilisent la réalité virtuelle avec des données de mouvement. C'est-à-dire que quand vous utilisez la réalité virtuelle, vous utilisez des données de mouvement, finalement, pour transmettre vos mouvements à la machine. Et ces chercheurs ont eu des données anonymisées et ont réussi à identifier des personnes anonymes. Donc, grâce à ces données, combien de temps, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais combien de temps de données est-ce qu'il faut pour identifier quelqu'un, à votre avis, avec 90% de sécurité, enfin de confiance. 94% très spécifiquement. Benoît.
Ouf, alors, j'étais en train de regarder l'article. Donc la question, c'est de savoir combien de temps la machine a besoin pour savoir que tu es
combien
humain.
Combien de temps de données de mouvement elle a besoin ? Si toi, bouges pendant, tu as des données de tes mouvements pendant combien de temps pour t'identifier toi spécifiquement, uniquement ?
Je pense que c'est en secondes. Allez, j'irai 8 secondes.
Oh, c'est plus que ça quand même. C'est 100 secondes pour identifier à 94%. Pour 94% des gens. En 2 secondes, ils identifient quand même déjà la moitié des utilisateurs. Mais Mais c'est incroyable parce que c'est de la donnée avec 3 points. C'est-à-dire qu'on a juste 3 points de mouvement et on identifie les gens avec 3 points de mouvement pendant 2 secondes. On a déjà identifié la moitié de la population. Et là où c'est particulièrement inquiétant, c'est que dans la réalité virtuelle, les données de mouvement ne sont pas accessoires, elles ne sont pas annexes, elles sont essentielles à l'utilisation de la technologie. Donc tout le monde donnera ces données de mouvement à l'opérateur du service systématiquement pour utiliser le truc si on fait de la réalité virtuelle. Donc le fait que ça soit aussi facilement identifiable, on va très facilement, Adrien, pouvoir identifier les gens pour leur vendre différents produits. Ça va être super pour l'e-commerce.
Je suis en rigolant, mais tu sais, la raison pour laquelle il ne m'a pas fait tomber de ma chaise, c'est que ça existe depuis des années déjà dans l'e-commerce pour combattre la fraude. Regarde, y a le fingerprinting, c'est on regarde ta machine, la résolution, l'OS, etc. Et ensuite, on regarde la souris, comment tu navigues et les stats. En quelques secondes, on est capable de savoir si c'est une machine ou pas. Alors, il ne te donne pas l'algorithme, mais il y a des solutions qui sont spécialisées pour savoir, pour pouvoir reconnaître des bots ou des humains. Donc, ça ne me paraissait pas tellement improbable qu'on puisse le faire également en VR. Tu insistes sur les trois points, mais en fait, ces trois points dans l'espace, ils peuvent te donner de la hauteur. Enfin, il y a beaucoup d'informations et sûrement aussi le device que tu utilises. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un paquet d'informations qu'on peut collecter également, quoi.
Bah, ce qui me préoccupe un petit peu là-dedans, c'est que d'une part, c'est pour identifier une personne spécifique et pas dire si c'est un robot ou une personne. Je ne crois pas que ça soit le cas avec les mouvements de la souris dont tu parles. Peut-être que oui.
Tu as raison. Non, tu as raison.
Et en plus, les mouvements en VR sont essentiels, font partie, c'est une partie indissociable de l'utilisation de la VR. Donc, on ne peut pas faire sans. Bon, écoutez, on n'y est pas encore à la VR, le métavers, on a encore un petit peu de temps. Pour le moment, on gère les problèmes d'IA. On verra pour les problèmes supplémentaires après. Écoutez, je vais passer au sujet, au reste de l'actu. On a passé beaucoup de temps sur l'IA, mais c'était très intéressant. Avant ça, un petit mot sur Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? Patreon, c'est un outil qui magiquement va vous rendre plus beau et plus intelligent. Comment est-ce que ça se passe ? Vous donnez simplement votre numéro de carte bleue. Non, vous soutenez un créateur, oui, avec votre numéro de carte bleue, et vous vous sentez plus beau et plus intelligent. C'est quasiment garanti. Si vous allez sur patreon.com/rdvtech et que vous soutenez le rendez-vous tech, bon, peut-être pas plus loin et plus intelligent, mais au moins vous vous direz, c'est une bonne chose de faite. J'y pense depuis quelques semaines, quelques mois, et je ne l'ai jamais fait. Mais ça prend 2 minutes à faire, et comme le disent les plus grands conseillers en productivité, si un truc prend 2 minutes à faire, il faut le faire tout de suite. Pas le noter, pas le penser à le faire plus tard. Maintenant. Donc, patreon.com/rdvtech, faut le faire maintenant. Et en plus, vous vous sentirez mieux. Moi-même, qui suis un utilisateur de Patreon pour soutenir des créateurs, je peux vous dire que c'est un plaisir immense de participer au travail et de les aider à faire ce travail quand je les soutiens sur Patreon. Donc, n'hésitez plus, patreon.com/rdvtech. En plus, vous aurez des contenus bonus, des contenus sympathiques. Il y a un édito qui arrive dans une journée, enfin cette semaine, où je compare la création de contenu au nombre de joueurs de foot professionnels en France. Vous allez voir, c'est tout un truc, mais ça fonctionne. Donc, vous aurez accès à cet édito. Oui, Adrien ?
Non, j'ai juste une petite question. Tu vois, nous, on voit dans l'e-commerce, avec l'inflation, les gens retournent vers des produits essentiels. Est-ce que ça affecte la créateur économie ? Est-ce que tu vois depuis quelques mois, justement, que tu as perdu des patriotes et c'est pour ça aussi que tu continues à insister ? Ou est-ce que non, finalement, il y a un lien tellement particulier un avec toi que les patriotes, ils continuent à te donner de l'argent ? J'ai aucune idée s'il y a un impact ou pas.
Alors, pourquoi j'insiste toujours ? C'est toujours le cas parce qu'il y a ce qu'on appelle du churn dans ce genre d'activité. Et il y a des gens qui s'arrêtent de soutenir régulièrement, depuis toujours. Donc, il faut toujours que j'encourage les nouveaux auditeurs ou les anciens qui se sentent plus motivés à soutenir pour combler, en fait, le churn, le départ de certains. Est-ce que je sens les difficultés économiques ? Oui. J'en parle pas beaucoup parce que, bon, au-delà de mes encouragements réguliers, c'est pas quelque chose qui est encore vraiment inquiétant pour mon quotidien. Mais est-ce que je le sens ? Oui. Sur Patreon, c'est sûr. Et donc, comme je le dis toujours, il faut surtout pas passer sur Patreon si vous n'êtes pas financièrement à l'aise. Ou si ça vous met quelque sorte de difficulté. Mais surtout, pour la publicité, alors, ça tient toujours, il y a des revenus publicitaires qui viennent, mais c'est vrai que entre le Covid et les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, je le sens plus là-dessus. Mais oui, je le sens sur les deux. Pour répondre à ta question clairement, Adrien, je le sens sur les deux. C'est pas encore inquiétant, donc je ne tire pas la sonnette d'alarme. Peut-être qu'un jour, je vous dirai...
Encore, mais fin de l'année 2023, ça peut l'être, c'est ça ? si y a beaucoup moins d'annonceurs et si il y a plus de personnes qui...
Je suis prudent et mesuré, donc j'espère pas. Mais on verra. Donc, patreon.com/rdvtech, dans tous les cas, difficulté ou pas, si vous appréciez l'émission, vous pouvez le faire. Peut-être que je suis un peu trop optimiste, Adrien, tu m'inquiètes tout à coup. Est-ce que...
Non, j'ai écouté l'épisode pour l'instant et c'était un très bel épisode d'ailleurs, c'était très touchant. On veut continuer à te soutenir. Mais juste, tu vois, on voit pas les difficultés, on est trois podcasteurs et tout est beau quand on enregistre derrière le micro, mais il y a tout le travail derrière et toutes les difficultés. Et puis surtout toi, plus que personne dans le podcast français, repose sur ça, donc tu dois avoir...
Ce qui me fait un petit peu réfléchir, mais je suis très content d'être dans cette situation, c'est que pour un indépendant, vraiment indépendant, moi je crois, je connais pas la manière dont travaille tout le monde, mais pour un podcasteur indépendant, j'essaye vraiment de rémunérer pas mal de gens qui travaillent avec moi, les gens qui travaillent régulièrement avec moi, et donc ça finit par devenir un poste incompressible de dépenses à la fin de l'année, qui n'est pas négligeable. Pour le moment, ça va. Donc,
est-ce que Fanny a peur de l'IA et elle se dit que...
Mais non, Fanny est irremplaçable, voyons. Fanny, elle est tranquille dans son poste, elle est totalement irremplaçable, donc ça va.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec la suite, le reste de l'actualité. Le Mobile World Congress, du coup, qui est relégué à une toute petite partie. Il y a deux choses que je note dans le Mobile World Congress. C'est des utilisations intéressantes d'écrans dépliables. Pour un téléphone et pour un ordinateur. Merci d'ailleurs à Numérama qui a fait une belle, couverture du sujet. Il y a deux choses que je note dans les écrans dépliables. Donc un téléphone, c'est tous les deux de la marque Motorola et Lenovo, hein, c'est le même groupe. Un téléphone qui peut passer de 6,2 pouces ou 5 pouces à 6,2, donc qui s'allonge et c'est en fait... l'écran qui est derrière, qui va se déplier et couler, rouler sur l'avant, et qui va donc agrandir le téléphone. Et il y a aussi un ordinateur dont l'écran, c'est un ordinateur portable, on le déplie, et l'écran va s'allonger, en fait, un petit peu par magie, et grandir pour passer d'un mode horizontal à un mode vertical. C'est des prototypes, hein, c'est pas du tout encore... sur le marché, et à vrai dire, on ne sait pas si ça donnera des produits. Le problème, c'est que les mécanismes sont vraiment apparents. C'est-à-dire qu'on a derrière, des parties mécaniques qui bougent. Ce n'est pas la tendance qu'a pris les téléphones ou même les ordinateurs. C'est plutôt du unibody, un corps complètement fermé où on ne va pas pouvoir mettre un peu d'eau ou ce genre de choses. Là, bah oui, il y a des charnières, il y a des trucs qui bougent, etc. Ça fait un peu volet roulant, quoi. Mais c'est une utilisation intéressante. L'autre chose, c'est la réalité augmentée. Il y a plusieurs lunettes de réalité augmentée, certaines plus convaincantes que d'autres. Les plus convaincantes sont les Xiaomi... comment elles s'appellent ? Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition, qui sont très moches, mais qui commencent à ressembler vaguement à quelque chose et surtout qui ont un écran couleur qui permet d'afficher effectivement une interface un petit peu convaincante qui ne se limite pas en fait à un écran déporté de votre machine ou à quelques icônes. Voilà pour les deux grosses tendances, enfin les deux trucs que je retiens. Vous avez envie d'un écran, un téléphone à écran dépliable qui gagne 1,2 pouces de diagonale ou ces lunettes à triple foyer Xiaomi ? Ça vous intéresse ?
C'est clair, c'est partant. Mais c'est, ce que je trouve surtout intéressant, c'est à quel point, effectivement, le Mobile World Congress est relégué à une deuxième partie d'émission. D'ailleurs, Patrick, est-ce que tu te souviens du rendez-vous tech 106 ? C'était celui du 26 février 2013.
Bien sûr, je m'en souviens très bien.
Voilà.
C'était le Mobile World Congress où on disait « Est-il encore intéressant ?»
Voilà. Et non, c'était le Mobile World Congress où Mike et moi, on était dans ton émission. D'accord. Pour parler, et c'était le gros sujet, c'était le Mobile World Congress. Alors, à l'époque, les questions, c'était est-ce que Nokia peut faire des Windows Phone qui vont enfin réussir ? Voilà, on avait des vraies questions. Donc voilà, je trouvais vraiment sympa aussi de se replonger là-dedans. Mais pour répondre à tes questions, ouais, je pense que non, ouais, pourquoi pas ? C'est dur, hein, après la partie qu'on a eue, c'est cool, mais voilà.
C'est cool, mais voilà, ouais, ça résume un peu. Adrien, toi, il y a des choses qui te parlent.
Oh, ouais, ça excite moi. Peut-être le petit truc qui m'a amusé, c'est sur les lunettes, elles sont moches, mais ils peuvent mettre des caches soleil. Et du coup, je trouve ça cool. Ça masque tout le truc et je me vois plus le porter. Mais c'est exactement ce que tu dis, Benoît. Après, l'IA, il prend tous les médias, on le voit partout. Moi, ben, en congrès, je suis étonné de ne pas en avoir entendu parler alors que je le suis chaque année. Quoi. Donc,
ouais, pas plus que ça.
Mais tu sais, le paradoxe, c'est qu'on en rêvait de ce que tu décris. Mais littéralement, il y a quelques années, tu vois, des écrans pliables, souples, qui peuvent se rentrer en mode papyrus, etc. L'écran qui grandit, et là, on est déblasé. Mais sans plus.
Je dirais que les écrans pliables, c'est encore une implémentation qui n'est pas... pour la réalité augmentée et pour les écrans pliables, on est vraiment, ou enroulables, on est vraiment dans des implémentations intermédiaires. On est à l'état de concept et de prototype. Et donc, ce n'est pas hyper excitant encore. Je crois qu'on va y arriver. Je crois que les écrans pliables de ce type-là donneront quelque chose d'intéressant à terme. Et je crois que les lunettes de réalité augmentée, celles de Xiaomi, il y en a eu plusieurs qui ont été présentées, c'est une vraie tendance au Mobile World Congress. Celles de Xiaomi sont super moches, mais elles sont plus petites, plus compactes que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Elles ont un vrai écran couleur qui prend alors un champ d'action pas énorme, mais qui permet d'avoir différents éléments d'interface entièrement en couleur qui sont utilisables avec des mouvements de main pour les contrôler. Enfin, il y a des choses qui se passent, mais on est un petit peu effectivement à l'état de prototype, on va dire. Et pour le Mobile World Congress, c'est un peu...
Fragilité de l'appareil et autonomie, c'est les deux gros trucs encore. Il faut vraiment, vraiment travailler dessus. Et tant que ça ne sera pas résolu, je ne vois pas comment ça peut être encore...
Ouais, on est encore à l'état de prototype et ça arrivera. Comme souvent, on se dit le jour où Apple se lancera, ça sera peut-être le moment où la technologie sera mûre. Ça se trouve, Apple va effectivement annoncer ses lunettes de réalité augmentée pour développeurs dans un premier temps cette année à leur conférence pour développeurs en juin. On verra.
Tu te verras acheter ces appareils s'ils étaient disponibles, Patrick, ou toi?
Celui-là, le Xiaomi, non. Non, tout de suite, non. Mais
les lunettes.
La technologie, moi, j'y crois. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de véritablement intéressant dans la réalité augmentée. La réalité virtuelle est intéressante aussi pour d'autres raisons, mais je crois que les applications de la réalité augmentée pourraient être plus immédiates et plus perceptibles tout de suite, quoi. J'attends quand même de voir ce que va faire Apple là-dessus, parce que souvent, c'est eux qui mettent des applications, pas toujours, des applications sur des nouvelles technologies qui cherchent des réponses. Donc, on verra ce qu'ils vont faire.
En tout cas, on est d'accord que le design des Xiaomi, on voit que ce n'est pas Apple. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute.
Elles sont super moches. On dirait, comme je disais, des trucs à triple foyer avec des foyers au milieu des lunettes. Mais on est, par rapport à ce qu'on faisait il y a encore 5 ans... Il y a eu des progrès fous dans la légèreté, dans la portabilité du truc. Donc, je pense que c'est... Là, elle se connecte à un téléphone. Il y en a d'autres qui sont autonomes. Mais celle-là, elle se connecte à un téléphone par Bluetooth et Wi-Fi en même temps. Donc, il y a une latence qui est bonne, enfin, etc. Il y a plein de d'avantages à ce truc-là. Mais clairement, à mon avis, c'est encore 2-3 ans avant que ça soit utilisable. Même si Apple présente ses lunettes de réalité augmentée à la WWDC en juin, ça sera une version pour développeurs. Donc, on aura une version commerciale peut-être l'année suivante. Donc, ça sera... C'est même là, on n'y est pas, quoi. Un article hyper intéressant qui sera dans la newsletter, d'ailleurs, évoque la transition des réseaux sociaux vers des réseaux sociaux premium. Et il parle, entre autres, de Twitter et Meta, donc Facebook et Instagram, qui sont passés en mode payant pour les utilisateurs, entre guillemets, plus ou moins pro. Alors, il y a différentes fonctionnalités. Je ne vais pas repartir dans les questions de Twitter Blue et Facebook Verified et Instagram Verified. Mais en ajoutant ça à d'autres réseaux sociaux ou assimilés qui ont des offres payantes, il mentionne notamment YouTube ou Discord ou ce genre de choses, là, c'est Shirin Ghaffari qui dit, je crois que c'est une journaliste, qui nous dit dans Vox, bah maintenant, les réseaux sociaux, c'est plus gratuit. Et ce n'est pas la blague qu'on avait sur Facebook depuis des années. « Ah, Facebook va devenir payant. Envoie ce message à 100 de tes amis si tu ne veux pas, si tu veux le garder gratuit. » Ce n'est pas ça. C'est le fait qu'il y a un accès gratuit aux réseaux sociaux, mais aussi un niveau payant qui divise les utilisateurs en deux classes d'utilisateurs et les utilisateurs gratuits, eh ben, ils n'ont pas accès aux mêmes avantages comme un service client plus efficace, une vérification de l'identité, etc. Pour ça, il faut payer. Et c'est en train de se généraliser sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé l'article vraiment intéressant. Il sera dans la newsletter. Mais du coup, bah oui, réseaux sociaux payants, on y arrive, quoi.
Patrick, tu sais, dans les années 90, on voulait un Internet égal pour tout le monde. C'était un concept qui était défendu par le W3C, par Tim Berners-Lee, etc. Et peu ou prou, on s'est dit, OK, ça a plutôt fonctionné. Et en fait, la couche plus haute, c'est les plateformes qui en fait, font exactement ce que tu décris, qui vont diviser du coup, et il y aura un Internet à deux niveaux, ou en tout cas, ceux qui vont pouvoir se payer ces services-là et qui ont accès à du contenu, interagir des personnes, et puis les autres. Et la différence avec ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est que jusque-là, tout le monde payait via la pub. Donc, on disait, on est le produit, OK, on accepte ou pas, mais ça a fonctionné à peu près. Là, on arrive à autre chose, quoi. Ce qu'on a pu voir dans le gaming ou dans le software, etc. Et ouais. Donc, ouais, c'est un peu malheureusement.
Bon, mais est-ce que prouver son identité, avoir accès au support, c'est pas des choses, qui sont... Après, c'est vrai que quand on commence à ajouter ou enlever des features, c'est peut-être un peu différent, mais moi, ça me semble assez logique, hein, aussi comme développement, parce qu'il y a beaucoup de marques, parce que beaucoup de sociétés, petites ou grandes, hein, qui sont là, qui ont d'autres besoins, donc... ce côté one size fits all, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Donc, je ne suis pas certain que ce soit un mauvais signe, disons. C'est plutôt une maturation qui me semble assez logique.
Moi, ce que je dirais, vous l'entendez arriver tout de suite, là, vous l'entendez. C'est l'avocat du diable. Le voilà, l'avocat du diable. C'est pas vraiment un Internet à deux vitesses ou des réseaux sociaux à deux vitesses, c'est plutôt utilisateur casual et utilisateur professionnel. Parce que c'est vrai que tous ces trucs-là, encore que Twitter n'a pas tout à fait la même approche, mais c'est plutôt une utilisation genre semi-professionnelle ou professionnelle, et dans ce cas-là, oui, on veut payer parce que ça nous apporte quelque chose pour notre activité. Et ça, c'est pas quelque chose qui est finalement si loin de ce qu'on connaît ailleurs. Il y a énormément de services qui ont un niveau gratuit. Et puis, quand on veut vraiment l'utiliser, on paye. Là, c'est sur cette, on va dire, sur cette plage qui va du tout gratuit au tout payant. Et on est peut-être placé un petit peu différemment. Mais sur le principe, ça me choque pas énormément. À partir du moment où on n'a pas... on peut dire, par exemple, oui, la sécurité ou le service client devrait être inclus dans votre produit et on n'a pas besoin de payer pour... C'est pas faux, mais quand même, quand on est quelqu'un qui est une personnalité publique, par exemple, on n'est plus possiblement la cible d'une attaque ou de la perte d'un compte ou ce genre de choses. Et donc, avoir accès à un service client un petit peu amélioré, ça peut se comprendre et se justifier, surtout si c'est payant. Donc, à voir où ça ira.
Il faut toutes les boîtes doivent rationaliser leurs dépenses. Donc, ça arrive à un moment donné où, de toute façon, il faut qu'elles génèrent plus d'argent. Est-ce que ça va être juste temporaire? Je ne pense pas, parce qu'une fois qu'elles vont mettre en place, il n'y a aucune raison qu'elles l'enlèvent. Pour le moment, effectivement, on peut se dire que c'est que des petites fonctionnalités qui ne sont pas le corps, le cœur de ce que tu utilises dans ces services-là. Il faudra voir s'il n'y a pas des services qui, petit à petit, sont rajoutés. Et au final, tu te retrouves loqué dans un ou dans l'autre. Mais juste là, c'est plus philosophiquement, je trouve ça dommage, quoi. Mais je comprends les réalités économiques.
Je comprends, mais le truc, c'est est-ce que c'est vraiment raisonnable aussi de s'attendre à ce que tous les services soient gratuits pour tout le monde tout le temps ?
C'est toujours la même chose, c'est gratuit au début. On commence à changer les règles, etc. Donc en fait, tous ceux qui le font, c'est ceux qui ont déjà, qui arrêtent la croissance, qui sont déjà, ils ont déjà toute la terre. Donc une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais ?
TikTok est en train d'essayer de conquérir la terre entière, mais on a vu à une semaine d'intervalle encore différents gouvernements bannir l'utilisation de TikTok des appareils du gouvernement, donc pas des appareils personnels, mais on a vu l'Union européenne, enfin la Commission européenne, pas toute l'Union, le gouvernement canadien et la Maison-Blanche qui demande à toutes les agences fédérales de supprimer TikTok des appareils gouvernementaux. Je le rappelle en deux secondes, il y a beaucoup de bruit autour de TikTok en ce moment avec TikTok et hyper addictif, machin. Alors oui, bon, peut-être. Mais le vrai problème avec TikTok, c'est les liens avec le gouvernement chinois et le fait qu'on peut obtenir beaucoup d'informations sur les habitudes, les préférences des personnes qui utilisent ces réseaux. Et aujourd'hui, on n'a aucune preuve que TikTok est utilisé pour de la manipulation, pour de la collecte d'informations, aucune preuve. Le problème est un problème potentiel, un gros point d'interrogation qui est posé par les liens de la société mère de TikTok avec le gouvernement chinois, comme toutes les sociétés chinoises, finalement. Et au fur et à mesure que TikTok s'étend et conquiert différents domaines, au départ c'était que des vidéos de danse, aujourd'hui il y a de l'entertainment, de la politique, des sujets de société, etc. Ben, c'est vrai que ça devient de plus en plus le danger potentiel qui n'a jamais été prouvé, qui est impossible à prouver à ce stade. Enfin, le danger potentiel existe, mais il n'a jamais été constaté. Eh bien, il y a de plus en plus de gens qui sont préoccupés par le danger potentiel posé. Ouais. Donc, de plus en plus de gouvernements qui disent « Bon, vous, sur votre appareil personnel, vous faites ce que vous voulez, mais sur l'appareil issu par le gouvernement, fourni par le gouvernement, vous ne pouvez pas mettre TikTok. »
Mais disons, moi ici, je ne pense pas qu'ils aient des peurs qui soient incroyables d'espionnage à fond, mais il y a des trucs tout bêtes comme simplement la géolocalisation. Si on sait qu'il y a tant d'officiels qui vont à tel endroit et toutes les réunions ne sont pas forcément publiques, c'est juste des informations qui ont une énorme valeur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses trop folles d'accès ou de piratage, etc. quoi. Donc, c'est vrai que le lien, il est assez direct. Après, si on peut installer n'importe quel jeu gratuit à côté, voilà, les vrais soucis de piratage, ils viendront de là. Donc, je comprends. Et puis, ça me semble tout à fait logique, d'ailleurs. Même n'importe quel environnement professionnel un peu sensible, on n'installe pas ce genre d'application.
Mais là, ce n'est pas une question d'environnement professionnel sensible. Hein. Encore que dans la chatroom, on nous dit... alors, je ne sais pas où il travaille, mais il nous dit qu'il a reçu un mail du boulot disant « Si vous avez des informations professionnelles sur votre appareil personnel, ne mettez pas aussi TikTok sur votre appareil personnel. » Juste pour le cas où. Est-ce qu'on est dans une chasse aux sorcières ? Je crois que le danger est potentiel, mais potentiellement réel. Donc,
est-ce que la censure, ce n'est pas une forme de manipulation ?
Ah, mais bien
et
sûr.
Et dans ce cas-là, donc TikTok déjà censure du contenu. Donc, pour moi, je pense qu'il y a déjà une certaine...
Alors, est-ce que TikTok censure du contenu ? L'application chinoise, évidemment, Douyin, mais TikTok... Je suis pas. Mais par contre, là où il y a le point d'interrogation, c'est l'algorithme qui est très nébuleux et il peut être manipulé s'il est pas. Enfin, il peut être paramétré de différentes manières à l'avenir. Ça fait partie du problème aussi. Mais les gouvernements qui demandent aux utilisateurs d'appareils fournis par le gouvernement de ne pas les utiliser, c'est pas pour ça. C'est pour d'autres raisons de tout aussi préoccupantes peut-être, mais. Bref, ça s'étend, on n'est plus au stade où on se demande si, est-ce que peut-être, là, de nombreux gouvernements sont en train de dire on n'utilise pas TikTok chez nous. À côté de ça, le pouvoir des gouvernements se confirme et s'infirme peut-être parfois. En Europe et, semble-t-il, aux États-Unis, l'acquisition de Figma par Adobe semble être remise en cause, ou en tout cas, les autorités de régulation de la concurrence sembleraient vouloir le remettre en cause. Autant il y a des cas où ces autorités me paraissent faire un travail un petit peu, pas discutables, mais leurs arguments ne me convainquent pas. Autant là, Adobe qui rachète Figma, Figma c'est un outil de design, enfin c'est clairement un concurrent quoi. C'est un concurrent et c'est une menace à l'hégémonie d'Adobe, même si elle vacille depuis quelques années. Ça a fait lever plus d'un sourcil au moment de l'annonce du rachat. Je n'aurais pas surpris que là, pour le coup, ce rachat soit interdit, on va dire.
C'est vraiment la discussion qu'on a plein de fois sur où est-ce qu'on fait du mal aux consommateurs. Hein. Est-ce que c'est que le prix qui a été longtemps? Et puis là, de nouveau, on est dans ces questions. Peut-être que la concurrence, c'en est un autre. Moi, le seul truc que j'aimerais mieux comprendre, c'est que ça soit plus explicite, les critères. Parce que le problème qu'il y a, c'est que, comme tu dis, quand on regarde Amazon et iRobot ou bien ça, c'est, à un moment, il faudrait pouvoir comprendre, vu qu'il y a un changement de paradigme, exactement où est-ce qu'ils veulent en venir. Et je n'ai pas l'impression que ça ait été explicité pour le moment. Une fois que c'est fait, après, c'est une décision comme toutes les autres politiques, quoi.
Bah, je crois que là, dans ce cas précis, on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Hein. Adobe qui rachète Figma, c'est un concurrent qui rachète son concurrent et il est déjà dominant et il y en a un qui le menace, il le rachète. Donc, après,
où est-ce que tu fais du mal aux consommateurs? Toi, est-ce qu'ils vont payer plus cher? Est-ce que du coup, ils ne vont pas pouvoir faire certaines
Alors,
choses?
Toi,
à l'époque, c'était ça.
Tu es sur la philosophie américaine. Est-ce qu'il faut considérer le mal fait aux consommateurs ou le mal fait au marché tout court?
Exact.
Oui.
Mais aux États-Unis, toi, c'est là où c'est le changement de paradigme. C'est que... Ouais.
Bah, disons que l'Union européenne semble s'intéresser au deal également. Et dans l'Union européenne, on a des critères pour ce qui est de la concurrence qui inclut l'émergence de potentiels acteurs concurrents et pas simplement le mal fait au consommateur final, comme c'est le cas aux États-Unis. Je crois que dans ce contexte, ça se justifie. Et puis, on sait qu'aux États-Unis, la volonté de combattre les géants de la tech est politiquement active. Alors, est-ce que Adobe est le plus gros géant sur lequel on pouvait mettre la main? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, je crois que l'absence de concurrence dans le domaine du design assisté par ordinateur est un problème. Et le rachat de Figma par Adobe me semble assez clairement, alors je ne suis pas un spécialiste de la question, peut-être qu'il faudrait que je l'étudie plus, mais me semble assez clairement contribuer à ce problème. Quoi.
Okay.
Bon, après, il y en a d'autres. Mais...
Ça revient...
Après coup, après l'annonce, parce que maintenant, si jamais le rachat ne se fait pas, ça va porter atteinte aux deux sociétés, de manière directe ou indirecte. Ils ont une armée d'avocats, il y a eu des due diligence. J'ai toujours du mal à comprendre c'est quoi le mécanisme pour que ça arrive a posteriori, et pas juste avec Adobe Figma, mais avec Microsoft.
Il faut que ça soit annoncé et que le gouvernement étudie la chose. Ils ne peuvent pas dire qu'ils refusent le deal avant que le deal se fasse. Donc forcément, ça prend un petit moment. Ça me surprend pas plus que ça. Et ensuite, eux, ils y vont, ils se disent « bon, on va tenter, on va voir si ça passe ». Surtout que le climat politique jusqu'à, je dirais, l'année dernière, était quand même « on s'en fout, tant que les sociétés grossissent et que l'économie croît, tout va très bien ». Et l'hostilité face aux géants de la tech ne s'est vraiment solidifiée dans le climat politique, je dirais, avec l'administration Biden il y a 2 ans, donc aux États-Unis.
Et en Europe, surtout depuis la guerre, mais on va dire ces derniers temps, on voit que le mot souveraineté apparaît de plus en plus. On n'aura sûrement pas le temps de le traiter dans cet épisode, mais tu vois, il y a eu l'annonce des nouvelles startups qui ont rejoint le Next 40 en France ou French Tech 120, et c'est une volonté forte du gouvernement, mais pas que français. D'ailleurs, dans l'Union européenne, chaque gouvernement veut plus de souveraineté et donc va se protéger plus et va investir plus sur des startups pour être plus souverain, tout simplement, sur certains secteurs clés, l'énergie, l'IA, etc.
Quelques petits sujets rapides pour terminer. Je vous parlais dans l'after show aux Patriotes de la question de la section 230 et des différents procès qui étaient passés en vue par la Cour suprême américaine et des dangers que présentait le fait de modifier la section 230. Eh bien, d'après ce qu'on peut retirer des premiers arguments, enfin des arguments devant la Cour suprême, il semblerait que la Cour suprême ne soit pas hyper prompte à changer la section 230. Après tout, on ne comprend pas très bien pourquoi ils ont accepté de passer en vue les procès. certains analystes semblent dire, bon, ils croyaient que ça serait un moyen de mettre les géants de la tech au banc des accusés, et ils se rendent compte avec les arguments qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, et que la section 230 ne fait pas du tout ce que certains pensaient qu'elle ferait. Alors que est-ce que c'est un manque de préparation de la part de la Cour suprême ? On ne sait pas. En tout cas, une fois devant les arguments, ils ont l'air de dire, oui, bon, finalement, on va laisser la section 230 là où elle est, et on verra peut-être pour une autre occasion de rediscuter des responsabilités et de la manière dont modèrent les géants de la tech aujourd'hui, parce que ce n'est pas de ce côté qu'il faut l'approcher. Et puis quoi d'autre ? Bon, Twitter continue à licencier des gens, dont Esther Crawford. Je ne sais pas si vous savez qui est Esther Crawford, mais...
c'est un sac de couchage.
Voilà, c'est celle-là avec son sac de couchage qui était la super cheerleader d'Elon Musk au sein de Twitter, qui semblait vraiment se dire « Moi, j'ai un coup à jouer là, tout le monde se barre, moi, je vais être la fangirl d'Elon Musk. » Elle était la leader sur la monétisation avec Twitter Blue, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est l'une des execs. S'est faite virer. Bon, c'est un petit peu... comment dire ? Je me réjouis pas, évidemment. Mais c'est quand même comique... de voir que même elle s'est faite virer dans la quatrième vague de licenciement après que Elon Musk ait dit « Bon, bah, on va plus virer personne maintenant, ça y est, c'est terminé. » Et entre parenthèses, il semblerait que le président, le CEO de la Boring Company, une autre société d'Elon Musk, soit en train de se positionner et soit sans doute en train de devenir le président de Twitter. On va voir ce qui se passe dans les semaines et les mois à venir. Et oui, allez, on va conclure sur ça. Polytoop, est-ce que vous connaissez Polytoop ? Vous savez ce que c'est ?
Ah non.
Alors, c'est un projet à but non lucratif qui archive les tweets effacés d'hommes politiques. Et le problème, c'est que suite au changement des API de Twitter, ils ne peuvent plus faire leur travail. Et donc, ils sont désormais... et ils ont dû arrêter leur archivage. Donc, quand on parlait des conséquences qui pouvaient être gênantes des changements, des différents changements des systèmes de Twitter, bah, en voilà un qui est quand même préoccupant, quoi. Et voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Merci à vous deux d'avoir été là pour cette longue discussion passionnante sur différents domaines de l'IA. En fait, on pourrait dire on a fait une heure sur l'IA, mais comme l'IA touche à plein de trucs, on a parlé de 10 trucs différents dans cette première partie. Merci à vous deux d'avoir été là avec moi. Je vais vous demander, avant qu'on se quitte, de me dire où on peut vous retrouver sur Internet et peut-être ailleurs, si vous le souhaitez. Hein, ça, ensuite, c'est vous qui voyez. Dis-moi d'abord, Adrien, où te retrouve-t-on quand tu n'es pas dans le Rendez-vous Tech ?
Bah, vous pouvez taper le café de l'e-commerce sur Google et vous retrouverez le podcast. Et chaque semaine, on décrypte l'actualité avec Laetitia, l'actualité en France et à l'international de l'e-commerce pour les marques et tout l'écosystème.
Merci Adrien, le café de l'e-commerce.fr. On mettra le lien dans les notes de l'émission et on mettra aussi le lien de Benoît dans les notes de l'émission. C'est toujours ton compte Twitter ou tu as déserté ?
Alors, non, je suis toujours sur Twitter, @BakerDee, et puis sinon le reste du temps sur NipTech. Alors ce soir, vous allez y croire peut-être ou pas, le sujet c'est ChatGPT à l'école avec nos copains de NipEdu. Donc ça sera vraiment, voilà, AI et éducation. Donc évidemment, tout le monde se pose ces questions. On traite un peu, comme on le dit, des mêmes genres de sujets. Et puis, mais globalement, si vous avez...
Je n'arrive pas à croire que tu dis
jamais
ça. Incroyable.
Si vous avez des opinions sur comment les régulateurs font bien leur travail ou mal leur travail, ou si ça vous impacte dans votre vie, sincèrement, contactez-moi. Je suis hyper intéressé par avoir des expériences d'autres domaines, maintenant que j'ai un peu des idées sur mon domaine. Donc, n'hésitez pas. Si ça fait un peu ces appels de ces téléréalités. Si vous avez souffert d'un régulateur, eh bien, faites-moi savoir. On en parle en privé.
On peut contacter sur Twitter.
Ouais, BQD sur Twitter, c'est le mieux. Ou ça doit marcher. Ben@niptech.com. Essayez. Si ça revient,
essayez. Si ça marche pas, allez sur Twitter.
Exact.
Super. Est-ce que tu as lu cet article de Ethan Mollick sur la manière dont il a imposé à ses élèves d'utiliser l'IA ? Tu as lu cet article ou pas ?
Ah non.
Alors écoute, si vous allez parler de ça ce soir, je vais t'envoyer le lien de l'article. Je te le mets dans la chatroom tout de suite. Il est fascinant et je t'encourage à y jeter un petit coup d'œil pour agrémenter votre discussion.
Ah bah écoute, c'est parfait. Tu mets ici, enfin dans... Alors, je ne suis pas sur Twitch. Mais
tu n'es pas sur Twitch, mais alors voilà, je te le mets dans Discord, c'est encore mieux. On en parlait la semaine dernière dans l'émission et c'était vraiment un article vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Il était dans la newsletter aussi. Donc, puisque tu es abonné à la newsletter, Benoît, bien sûr, il te suffit d'aller chercher celle de la semaine dernière et tu retrouveras l'article aussi.
Facile.
Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. Vous me retrouvez sur notepatrick.com, mais aussi dans les notes de l'émission pour le lien vers le Discord où on discute et c'est sympa, vers le Twitch où on se voit et c'est sympa, vers les replays sur YouTube où c'est sympa aussi, et puis surtout patreon.com/rdvtech, l'astuce pour se sentir plus beau, plus intelligent, plus fort et plus courageux, patreon.com/rdvtech, en soutenant les créateurs que vous appréciez, votre vie s'améliore de manière garantie de 8%. C'est pas mal, 8%.
Oh, c'est non bien.
Moi, ça me paraît bien quand même. 8%, c'est notable, écoutez.
Surtout quand on part de haut, comme toutes les personnes qui t'écoutent.
Exactement, donc, 8% de beaucoup, ça fait encore plus. Donc, patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.